Voici une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que le monde s'améliore? Les Saintes Écritures ont nous donné une réponse qui surprendra plusieurs auditeurs, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. C'est tellement rassurant de savoir que la Bible va nous dire la vérité en réponse à toutes nos questions. Alors les voici. À quoi est-ce que les croyants sont appelés? À débattre des doctrines ou à présenter l'Évangile? Est-ce qu'on doit utiliser des techniques spéciales pour prêcher l'Évangile? Est-ce que le monde s'améliore ou va-t-il de plus en plus mal? Quel est le but de l'Église de Jésus-Christ depuis ses débuts? Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si l'Église était enlevée? Pourquoi est-ce qu'on doit s'examiner soi-même? Est-ce qu'une personne peut avoir de la puissance contre la vérité? Est-il important de rechercher la maturité spirituelle? Comment est-ce qu'on peut se perfectionner en tant que croyant? Restez là, nos réponses s'en viennent, mais premièrement, assurons-nous de bien comprendre ce que Dieu va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, on désire comprendre ta parole aujourd'hui. Dispose nos cœurs. Fortifie-nous par ton esprit qui est en nous. Éclaire-nous et parle-nous, enseigne-nous. Dirige nos pas, Seigneur. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul fut ravi au troisième ciel, où il a entendu des paroles ineffables que Dieu lui a demandé de ne pas répéter. Paul a raconté cette expérience aux Corinthiens afin de défendre son apostolat. En effet, son autorité apostolique était contestée par des gens de l'Église de Corinthe. Paul ne s'est pas servi de cette expérience glorieuse pour se faire un nom ou pour se glorifier. Il se glorifiait de ses infirmités, car par celles-ci, Dieu pouvait manifester sa puissance. Dieu a permis qu'il y ait une écharde dans la chair de Paul, afin qu'il s'appuie sur lui. Sur Dieu, et non sur ses propres forces. Dieu a fait cela pour garder Paul humble, car il ne peut utiliser avec puissance que des personnes humbles. Cependant, Paul pouvait faire des miracles, ce qui prouvait l'authenticité de son message. Aujourd'hui, chers amis, nous terminons l'étude de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous reprenons au verset 13 du chapitre 12. Lisons ensemble les versets 13 et 14. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Paul était le père spirituel des chrétiens de Corinthe. Il les avait conduits au Seigneur Jésus et avait fondé l'Église de Corinthe en y prêchant l'Évangile. Verset 15. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Paul leur dit que plus il les aime, moins les Corinthiens l'aiment. Autrement dit, les Corinthiens ferment leur cœur à Paul. Cela semble être une plainte, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu insiste qu'il ne parle pas de ce qu'il a vu au ciel, mais qu'il parle de ses souffrances et de ses déceptions sur cette terre. Verset 16. Soit, je n'ai point été à votre charge, mais, en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Nous sommes là pour, premièrement, conduire des âmes au Seigneur. Notez ce que Paul leur dit. « Ce n'est pas vos biens que je désirais, mais je voulais que vous veniez au Seigneur Jésus. » N'est-ce pas ce que Jésus avait dit aux apôtres? Il leur a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Matthieu chapitre 4, verset 19. Il ne les envoie pas à participer à une excursion de pêche, mais en tant que pêcheurs d'hommes. Jésus les a fait pêcheurs d'hommes, et c'est là qu'il faut mettre l'accent, chers amis. Verset 17 et 18. « Ai-je tiré du profit de vous, par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? » Prêchons la parole de Dieu en toute simplicité. Paul n'a pas utilisé des techniques ou des méthodes habiles. Il a prêché la parole de Dieu en toute simplicité. Il n'a pas envoyé personne après lui pour tirer profit des Corinthiens. Versets 19 et 20. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Ce sont les choses que Paul s'attend à trouver à son arrivée dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens attendaient beaucoup de Paul, et Paul en attendait autant de leur part. Mais que trouverait-il? Des discussions et des querelles. Notre devoir est de présenter le Seigneur Jésus, pas de débattre des doctrines. Après un certain temps dans le ministère, nous évitons les débats inutiles. Au début, lorsque nous sommes entrés en onde, nous avons reçu un document de 40 pages. Une personne voulait que nous révisions un point de doctrine. Nous avons envoyé une petite note accusant réception du document, mais nous n'avons pas débattu le point de doctrine avec la personne. Nous sommes ici pour vous présenter la personne de Jésus-Christ et sa parole, non pour débattre de toutes sortes de questions. C'est la Bible que nous enseignons, et loin de nous l'idée de cesser de nous y référer. C'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner. L'Église contemporaine est remplie des éléments énumérés par Paul, des querelles, des jalousies, des animosités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. As-tu entendu parler d'un tel? Non, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Laisse-moi te dire que... La conversation se poursuit et des choses très méchantes sont répétées au sujet de la personne. D'autres murmurent. Il y a des gens qui croient tout ce qui est dit en murmurant. Nous sommes avisés de faire attention à nos paroles. Écoutons ce texte. D'Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. L'orgueil rend d'autres individus pontifiants. En cherchant une traduction pour le mot pompous, utilisé dans le texte anglais du pasteur McGee, j'ai vu le mot ampoulé. C'est une façon imagée de décrire une personne enflée d'orgueil. Êtes-vous ampoulé? Dans une église, les petites cliques peuvent causer des troubles. Elles font circuler des pétitions pour diverses raisons et ainsi provoquent des troubles et brisent l'unité. Verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Corinthe était une ville de débauche. Elle était reconnue pour cela dans l'Empire romain. Aujourd'hui, ce serait une ville de tourisme sexuel. Les gens se rendaient à Corinthe pour cette raison. Il est vrai que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cependant, à cause de cet environnement, les chrétiens de Corinthe ne percevaient pas la gravité de certains péchés. Ceci n'est pas un beau portrait de l'Église, n'est-ce pas? En étudiant l'Épître avec nous, vous avez peut-être pensé que l'Église de Corinthe était une mauvaise Église. Vous aviez raison. Malheureusement, c'est aussi vrai de nombreuses églises contemporaines. Réfléchissons à une chose maintenant. Supposons que le Seigneur retire son Église et tous les chrétiens du monde présentement. Qu'arriverait-il s'il rappelait tous les vrais croyants? Nous croyons que la grande tribulation débuterait. Un des malheurs de la grande tribulation sera l'absence de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde, et le Saint-Esprit habite l'Église. Est-ce que le monde s'améliore ou va-t-il de plus en plus mal? Voilà la question. Est-ce que le monde s'améliore ou va-t-il de plus en plus mal? Certains affirment que l'Église n'a pas amélioré le monde parce qu'il est pire qu'au temps de Jésus-Christ. Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé. Je sais que 2 Timothée chapitre 3 verset 13 dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. » Ce verset ne dit pas que le monde empirera. Il dit que le mal empirera pendant la durée de leur vie et qu'ensuite une nouvelle génération viendra. Le monde est un peu mieux qu'il y a 2000 ans. Parce qu'à cette époque, le monde a commis un péché qui aurait été impardonnable si le Seigneur n'eût dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Parole rapportée par l'évangéliste Luc, chapitre 23, verset 34. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. En rejetant le Seigneur Jésus aujourd'hui, le monde le crucifie de nouveau. Le plus grand péché consiste à rejeter le Seigneur Jésus. Toutes les générations furent coupables de ce péché. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque l'Esprit viendrait, celui-ci convaincrait le monde de péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean chapitre 16, verset 9. De nombreux péchés sont très graves, mais le pire de tous est le rejet du Seigneur Jésus-Christ. Le pire crime de l'histoire de l'humanité fut le meurtre de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Le monde contemporain est aussi corrompu, aussi vil, aussi méchant qu'il l'était alors, et refuse toujours le seul et unique moyen par lequel Dieu peut pardonner le péché et effacer la dette de toute iniquité. L'Église est là pour témoigner et transmettre l'Évangile. Je dirais que le monde contemporain est un meilleur endroit où vivre, car nous avons des foyers, des maisons plus confortables. De nombreuses inventions nous rendent la vie plus facile, dont le progrès médical. Cependant, Dieu ne demande pas à l'Église de planter des fleurs sur la planète, pas plus qu'il a demandé à Israël d'en cultiver dans le désert. Les Israélites étaient des pèlerins qui traversaient le désert avec un message et un témoignage. C'est aussi le but de l'Église depuis ses débuts. Nous devons progresser dans la sainteté. L'Église est un groupe de croyants qui doivent être saints pour leur Dieu et qui devraient vivre pour lui. J'aimerais pouvoir montrer l'Église et affirmer que c'est ce qu'elle fait et que tout fonctionne à merveille. Malheureusement, les églises sont très occupées à régler des problèmes internes. Cependant, l'Église est toujours le groupe de personnes que le Seigneur Jésus aime. Il est mort à la croix afin qu'elle puisse être purifiée et que les croyants deviennent acceptables aux yeux de Dieu. Quoique nous soyons loin de la sainteté que Dieu demande de nous, nous devrions progresser vers celle-ci. Écoutez ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 et 2. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, nous avons un aperçu d'une église qui se trouvait dans la ville la plus corrompue de l'Empire romain, et nous voyons qu'elle avait des problèmes. Je n'aime pas que l'on dise qu'une Église n'influence pas son environnement. Il se peut qu'elle ne semble pas avoir d'influence, mais si ce groupe d'enfants de Dieu était enlevé, le monde serait encore pire. Poursuivons notre lecture cette fois. Nous débutons le 13e et dernier chapitre de cette lettre, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. « Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Paul répète qu'il viendra à Corinthe une troisième fois afin d'exercer son ministère et son autorité apostolique. Tous les problèmes seront examinés et réglés. Les Corinthiens constateront la preuve de l'apostolat de Paul en voyant la puissance de Christ travailler à travers la faiblesse de Paul. Versets 2 et 3. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Paul était venu vers eux dans un état de faiblesse, mais la parole de Dieu fut efficace, et elle les a transformés dans cette ville corrompue, pour en faire des saints. Verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit pour la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Paul dit, « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. » Parler de la faiblesse de Dieu semble un langage étrange. Quelle est cette faiblesse? Lorsqu'il est allé à la croix, mes amis, la faiblesse de Dieu fut manifestée. Mais il vit par la puissance de Dieu. Maintenant, Paul poursuit avec un sujet très important. Il y a un examen que tous les chrétiens devraient faire régulièrement. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Ceci n'a rien à voir avec le libre arbitre de l'homme ou l'élection de Dieu, ou la pénérité du salut des croyants. La pénérité est le caractère d'une chose qui dure toujours ou très longtemps. Paul nous dit de nous examiner afin de savoir si nous sommes, oui ou non, dans la foi. Nous devrions être disposés à nous poser cette question 2 ou 3 fois par année. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Paul s'était examiné, il savait qu'il était dans la foi. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Autrement dit, Paul affirme qu'il veut simplement qu'il soit le type de croyant qu'il devrait être. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous devrions prendre bien note de cette grande vérité. Mes amis, nous n'avons aucune puissance contre la vérité. C'est pourquoi je ne m'énerve pas lorsque des gens ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ces personnes ne peuvent rien faire contre la vérité. Nous devrions plutôt proclamer la parole de Dieu, continuer à le faire et ne pas passer notre temps à la défendre. Dieu ne nous demande pas de la défendre, il nous demande de l'annoncer et de la semer. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Nous devons rechercher la maturité spirituelle. C'est votre perfectionnement. Ici, Paul ne parle pas de la perfection dans le sens habituel du mot, comme nous l'utilisons en général. Il parle de maturité spirituelle. Il désire que les croyants croissent dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Paul dit aux Corinthiens qu'ils doivent grandir spirituellement. Verset 10. « C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que, présent, je n'ai pas usé de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, et non pour la destruction. » L'autorité sert à l'édification des saints, non à détruire l'Église en la dominant. Verset 13. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous nous perfectionnons en se consolant auprès du Seigneur ainsi que les uns les autres, en ayant les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus, ce qui comprend rechercher la paix. Nous sommes encouragés à rechercher la paix avec tous les hommes. Le Dieu d'amour et de paix est avec eux qui cherchent le perfectionnement que Dieu désire pour eux. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner, pour ensuite mourir sur la croix, afin de nous ouvrir le chemin au trône de la grâce. Versets 12 à 14. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un saint baiser est un baiser sincère qui exprime un véritable sentiment. Ce genre de baiser était pratiqué entre les chrétiens de l'époque. Il est encore pratiqué de nos jours dans de nombreux pays. Cependant, il faut être prudent, car ce n'est pas admissible dans certaines cultures. Le verset 14 est une belle salutation, la seule qui mentionne les trois personnes de la Trinité. La revoici. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu nous accorde, en la personne de Jésus-Christ, une grâce. Une grâce, une faveur imméritée, celle d'obtenir le pardon de nos péchés par la simple confession, le fait de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Une grâce nous a été faite, chers amis, une grâce vous est faite encore aujourd'hui de pouvoir obtenir le pardon de vos péchés, la réconciliation avec Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous aime, Dieu qui a envoyé son Fils Jésus, afin que par lui nous obtenions miséricorde, pardon et rétablissement. Et la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans la vie du croyant et par le fait même, il peut vivre en harmonie avec Dieu. Il peut communier, il peut communiquer avec Dieu. Voilà cette salutation qui est d'une grande importance pour les véritables croyants. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. As-tu reçu cette grâce venant de Dieu lui-même? Ce qu'il t'accorde aujourd'hui est gratuit. Tu n'as qu'à recevoir ce qu'il t'offre présentement. Confesse-lui ton péché. Dis-lui que jusqu'à présent, tu n'as pas accompli pleinement ce qu'il attendait de toi. L'observance des lois, des préceptes, des commandements. Tu as offensé Dieu par ton comportement, par ta manière de vivre, et par le feu même, en lui confessant cet état d'âme, tu reçois de lui la miséricorde, le pardon de tes péchés et la réconciliation, parce qu'il t'aime. Reconnais l'être que tu es devant lui. Il t'accordera cette grâce, et par le feu même, tu pourras être en communion avec lui. Les portes de sa demeure s'ouvriront et il pourra t'accueillir en sa présence, en tout temps, en communiquant par le Saint-Esprit qui lui viendra faire sa demeure en toi. Préparons-nous pour la prochaine émission. Un nouveau livre, Esther, chapitre 1, versets 1 à 3.
Merci beaucoup, Régent. J'ai bien aimé quand tu as dit que tu n'aimais pas ça quand on disait que l'Église n'influençait pas son environnement. Tu as ajouté qu'il se pouvait qu'elle ne semble pas avoir d'influence, mais que si les enfants de Dieu étaient enlevés, le monde serait encore pire. Dans le 5e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 13, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Et dans le 9e chapitre de l'Évangile de Marc, au verset 51, il nous dit, « Ayez du sel en vous-même. » Et l'apôtre Paul nous dit dans le 4e chapitre de son épître aux Colossiens, au verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnés de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mes frères, mes sœurs, je crois sincèrement qu'on est le sel de la terre, et je me réjouis du privilège que Dieu nous accorde de pouvoir être parmi le monde et de pouvoir, par la grâce de Dieu, faire une différence pour tous ceux qui nous entourent. Je pense aux particularités du sel. Il empêche les aliments de se corrompre. Donc, la présence d'un enfant de Dieu peut empêcher les gens de se corrompre. Ça me rappelle une fois, il y a environ 3 ans, où j'ai été invité à faire une émission populaire où je devais chanter 2 de mes anciens succès. Et je n'ai pas chanté de cantique à cette émission-là. Je n'ai pas eu assez de temps lors de l'entrevue pour partager l'Évangile avec les téléspectateurs, mais j'ai simplement pu dire que maintenant, je chante des chants qui parlent de l'amour de Dieu et que je suis une chrétienne. Pendant le tournage de cette émission, un des musiciens avait un langage assez grossier. Il prenait même le nom de notre Sauveur en vain. Et soudain, sans que j'aie dit quoi que ce soit à ce sujet, il s'est arrêté. Et après l'émission, il est venu me demander pardon pour le mauvais langage qu'il avait utilisé. Donc, frères et sœurs, je vois à quel point il est important qu'on ait une bonne conduite en tout temps, une conduite sainte, comme nous l'exprime Pierre dans sa première épître au 1er chapitre, au verset 15 et 16. Voici ce qu'il nous dit. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et on sait que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire, qu'on ne peut pas s'amuser. Mais je sais qu'on ne doit pas pécher ni approuver le péché dont on est témoin chaque jour. Et mon désir, c'est que ma conduite attire les gens de mon entourage à Christ, afin que je puisse en arriver à leur dire pourquoi je suis si heureuse, et afin qu'ils sachent qu'eux aussi peuvent en arriver à se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans le ciel. Mon ami, est-ce que ton nom est écrit dans le ciel? Sinon, il pourrait l'être aujourd'hui même. Jésus est le chemin qui mène au Père. Il a dit lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pouvait venir au Père s'il ne passait pas par lui. Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il a tout accompli. Tu n'as rien à faire pour mériter d'aller au ciel. Tu n'as qu'à recevoir le cadeau qu'il t'offre en ce moment. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et il va le faire. Il veut le faire en ce moment. Il frappe à la porte de ton cœur. Laisse entrer Jésus. Laisse-le te donner la vie. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.